France-États-Unis, un commerce équitable, une émission de Régis Debray, aujourd'hui autour du deuxième sexe, avec Françoise Gaillard.
Au début, je ne pensais pas du tout m'occuper jamais d'une manière spéciale des problèmes du féminisme, parce qu'il me semblait, et d'ailleurs il me semble encore aujourd'hui, que ces problèmes sont subordonnés à des problèmes sociaux beaucoup plus vastes. C'est seulement dans ces dernières années que ce désir m'est venu, d'une part parce qu'il m'a semblé que les femmes d'aujourd'hui avaient beaucoup de mal pratiquement et moralement à vivre et qu'elles étaient dans un état de déséquilibre, et d'autre part parce que j'ai été assez irritée, comme beaucoup de femmes, par le nombre de grandes sottises qui se débitent à propos de nous et à propos de notre situation.
Bon, eh bien, on vous a accusé, car vous n'ignorez pas que les hommes se trouvent fatalement, même lorsqu'ils vous aiment bien et qu'ils vous admirent, un peu vos ennemis quand il s'agit de ce livre. Ils vous ont donc souvent accusé, d'avoir mis là-dedans un accent de revendication, n'est-ce pas, d'avoir voulu vraiment venger les femmes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus?
Pour moi, c'est un livre que j'ai écrit sans aucune inimitié, sans aucune hostilité. J'ai simplement essayé de faire une mise au point. Je ne crois pas du tout que ce soit un ouvrage de revendication, de ressentiment, de complexe d'infériorité, comme on l'a insinué, parce que, étant donné que j'ai dû travailler tout de suite et que tout de suite j'ai eu une carrière qui me plaisait, je n'ai vraiment jamais souffert de l'inégalité qui existe en général.
C'est exactement mon avis. Je dirais même carrément qu'il me semble que vous êtes tellement au-dessus de la condition moyenne de la femme que vraiment vous devez en effet échapper complètement à toute espèce de complexe d'infériorité. Nous supprimerons donc, c'est évident, le mot de revendication, mais je pense que tout de même on peut dire que vous avez voulu, tout de même,
C'est peut-être un lieu commun, mais il n'y a pas de meilleur indice du degré ou de la nature d'une civilisation, de quelque pays que ce soit, que la place dévolue à la femme et la nature des relations entre les sexes, que ce soit dans la famille ou en dehors. Ce marqueur anthropologique embrasse les deux sens du mot « civilisation ». Au singulier, c'est le polissage des mœurs. Et au pluriel, c'est, disons, la couleur locale de chaque pays. En tout cas, dans le nôtre et en Europe, un mâle civilisé, je ne dis pas un rustre ou un butor, un mâle qui émerge de la barbarie, se doit d'être polissé, courtois, respectueux envers les dames. Et depuis le XVIIe siècle, la galanterie est un attribut, un signe distinctif de la civilité française. Un trait d'ancien régime, certes, lié à beaucoup d'autres, la cour, le salon, la conversation, le marivaudage, mais un trait qui a survécu à l'égalisation des conditions et reste aux yeux des étrangers un label de civilisation, un label de francité, si vous voulez. Dès le XIXe siècle, le féminisme français, pensant à Georges Sand ou à Louise Michel, s'est insurgé contre ce qu'il y avait de suggestion, de dépendance économique, de dédain politique dans ce prétendu culte de la femme. Et au XXe, en 1949, il y a eu ce coup de tonnerre, le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, avec son insipide célèbre « On ne naît pas femme, on le devient ». Au fond, comme était l'art pour Malraux, le féminisme est un antidestin. Il récuse la physiologie comme fatalité de naissance. Et ce livre, ce Made in France, si j'ose dire, marqué au coin de l'universalisme républicain, traduit en anglais en 1954, a eu une très forte répercussion aux États-Unis en suscitant un woman's lib, un néo-féminisme un peu particulier, comme on peut dire un néo-protestantisme. Et il s'est produit comme un aller-retour entre l'émetteur et le récepteur, et c'est pour examiner à la fois cet aller et ce retour, disons cette mutation civilisationnelle, que j'ai invité Françoise Gaillard, philosophe spécialiste de l'histoire des idées et qui enseigne très souvent aux États-Unis et même plus en Californie, où les choses se passent, comme chacun sait. Bonjour Françoise, on ne pouvait pas trouver meilleure personne que vous pour évoquer cette aventure, cette métamorphose du deuxième sexe aux États-Unis. J'ai envie de vous demander, comment a-t-il été reçu ce livre et dans quel contexte? Où en était le féminisme auparavant?
Cette question est extrêmement intéressante parce que le deuxième sexe, à sa parution aux États-Unis, a été véritablement très très bien reçu par les femmes. D'ailleurs, Kate Millett, qui est une des grandes féministes américaines, a dit « It was a revelation ». C'était une révélation. Et d'ailleurs, les témoignages de Simone de Beauvoir sont importants en la matière parce que elle-même, dans différents entretiens, a dit que la réception avait été infiniment plus sereine, d'une part, parce que c'est vrai que le deuxième sexe, quand il a paru en France, a été un ouvrage assez malmené. Plus que malmené, hein, ça a été tout de même assez dur.
Alors, à la fois par l'Église catholique et par le Parti communiste.
Absolument.
Mais également beaucoup d'autres, je pense aux réactions de François Mauriac, voilà. Indigné par la lecture du deuxième sexe.
Totalement. L'idée que c'était impudique, qu'en était-il de la maternité, enfin tout ça a été fortement critiqué. Alors que aux États-Unis, où il y avait déjà une tradition de féminisme, d'ailleurs, dont le droit fil de ce qu'avaient été les suffragettes, elles ont obtenu le droit de vote beaucoup plus tôt, comme nous le savons. La réception a été, et je prends le terme de Simone de Beauvoir, sereine, et elle ajoute scientifique, c'est-à-dire qu'on l'a vraiment lue. Et ce qui a été très bien compris, c'était justement cette phrase, hein, « on ne naît pas femme ». On le devient. Donc je crois qu'il faut comprendre que dans un contexte favorable, il n'y avait pas du tout à l'époque ni de Women Studies, enfin on en était à des années-lumière, mais tout de même un intérêt profond. Et Simone de Beauvoir a été invitée dans de très nombreuses universités, évidemment dans des universités qui étaient des universités réservées aux femmes et qui d'ailleurs étaient d'excellentes universités, mais dans bien d'autres universités.
Alors cette différence de réception est peut-être dû au fait que la France est de tradition catholique, les États-Unis de tradition protestante, on peut discuter sur ce qui est devenu le protestantisme, mais enfin il n'en reste pas moins qu'il y a des pasteurs femmes et qu'il n'y a pas de prêtres catholiques. Autrement dit, on peut dire que le protestantisme est tout de même plus favorable à une certaine égalité homme-femme que l'est la tradition, que l'est en tout cas la hiérarchie catholique. Le milieu d'accueil est tout de même plus favorable peut-être aux États-Unis ?
Oui, certainement. Sauf que ce que vous dites pour qu'il en est de la religion, c'est vrai qu'il y a des pasteurs femmes, il n'y a pas jusqu'à présent de prêtres femmes. Mais il ne faut pas oublier tout de même, et je crois que ça fait partie aussi de la réception de Simone de Beauvoir, que cette égalité en ce domaine n'est pas une égalité dans la société. Je donne un exemple. Encore aujourd'hui, les femmes travaillent moins. L'image que l'on a de la femme aux États-Unis, c'est encore la mère de famille.
C'est aussi la femme avec un fusil vers l'Ouest avec
mais
les
si
mecs
vous voulez,
sur son chariot.
Oui, mais ça, c'est le côté mère courage. Enfin, il y a le côté des pionnières. Mais si vous voulez, et on le voit dans un certain nombre de séries, notamment Desperate Housewives, c'est-à-dire que ce sont plutôt ces femmes dans des banlieues pas vraiment chic, mais qui sont d'une classe moyenne plus ou moins aisée, qui sont à la maison et dont le rôle est d'élever les enfants et de faire en sorte que le foyer soit le plus agréable possible pour l'homme. La femme, pendant longtemps, ne travaille que si elle y est contrainte pour des raisons économiques. Bon, c'est moins vrai dans les classes supérieures et dans les classes éduquées.
Et c'est pas tout à fait vrai dans la classe ouvrière où je me souviens.
Non, mais pour des raisons économiques.
Voilà, d'avoir vu des grèves,
évidemment.
À la fin du 19e, au début du 20e, des grèves
évidemment.
Très dures par des femmes dans le textile.
Absolument, c'est pour ça que je vous dis que si ça n'est pas une contrainte de type économique où il faut que deux salaires arrivent dans le foyer, l'idéal américain, réalisé ou non d'ailleurs, mais que l'on voit dans les films et dans les séries, c'est une femme qui s'occupe de ses enfants et de son foyer. Et d'ailleurs, cette série, qui était une série culte, Desperate Housewives, montre à quel point elle s'ennuie. Il y a une espèce de mélancolie, de tristesse, de semi-dépression liée à ce statut. Hein, la femme au foyer, la mère et la femme au foyer. Voilà. Donc, je crois que cet état des choses a joué un rôle dans la réception de Simone de Beauvoir. La femme française était depuis beaucoup plus longtemps habituée à travailler. D'abord, les deux guerres ont modifié le paysage.
Très vrai.
Pendant que les hommes étaient au front, il fallait faire tourner le pays. Donc, pendant la guerre de 14, on s'est habitué petit à petit à voir les femmes travailler.
Et puis, les suffragettes avaient tout de même plus de place dans le monde anglo-saxon qu'en France même.
C'est sûr, c'est une histoire anglaise et américaine.
Voilà.
D'ailleurs, non sans moquerie, parce que quand on voit des livres d'Henry James qui se moque de ces bostoniennes, la suffragette apparaît toujours un peu comme une espèce de vieille fille un peu aigrie, qui revendique des droits. Bon, c'est vrai que ce n'est pas une tradition française. Ma mère a vécu jusqu'à 100 ans. Elle était née, elle a connu Simone de Beauvoir, mais enfin, elle l'a connue, disons, lointainement. Elles ont fait leurs études de philosophie à la Sorbonne en même temps. Et je l'interrogeais en lui disant, mais enfin, maman, tu étais comme Simone de Beauvoir. Ma mère avait lu aussi Le Deuxième Sexe avec une espèce de délectation, etc. Alors je lui dis, mais comment se fait-il que toi qui avais fait des études, tu ne t'indignais pas contre le fait que la femme en France n'avait pas le droit de vote, alors qu'aux États-Unis, ça existait déjà. Réponse de ma mère, elle me dit, mais écoute, on vivait encore dans l'idée que si on donnait le droit de vote aux femmes, ce vote serait dicté soit par le curé, l'idée que ça serait par le curé.
C'était l'idée du Parti radical,
exactement,
qui était au centre de la Troisième République, parti anticlérical et convaincu que si les femmes votaient, eh bien, l'Église prenait l'État.
Exactement. Il y aurait une mainmise, si vous voulez, de l'Église, à travers le prêche, le curé, la confession, etc. Donc, ça ne lui paraissait pas scandaleux, étant donné qu'on avait peur de cela. Rien n'existait aux États-Unis de ce genre, pas du tout.
Qui ont donné le vote aux femmes très tôt.
Beaucoup plus tôt, très tôt. Donc, vous voyez, il y avait ce milieu à la fois. La situation, disait pas encore la Desperate Housewife, parce qu'on considérait au contraire que c'était un épanouissement de la femme, qu'elle soit au foyer et qu'elle élève les enfants, et en même temps le fait qu'elle votait. Donc il y avait des conditions favorables à la fois pour la résistance et pour la compréhension de ce que disait Simone de Beauvoir. Mais ça n'a pas duré tout le temps. Cet accueil favorable...
Oui, parce qu'il y a tout de même une Église catholique.
Il y a une Église catholique, oui, mais elle compte pas
beaucoup.
Bon, on l'a vu surgir dans le politique relativement récemment, lorsque le président, l'ex-président Obama, a voulu imposer sa réforme de la sécurité sociale. Oui. Là, l'Église catholique a joué un rôle.
Et mais sinon... il y a tout de même le puritanisme.
Alors, il y a le puritanisme.
Le deuxième sexe a tout de même des passages on ne peut plus cru.
C'est vrai.
Sur les relations sexuelles.
Mais comme on avait l'impression qu'il se lisait plutôt dans des milieux universitaires, que ça ne touchait qu'une couche cultivée, vous voyez, c'est un peu comme la drogue en France à la fin du 19e siècle, donc ça ne touchait qu'une petite élite, ma foi. Non, je crois que ce dont il faudrait faire état, c'est que, vous voyez, il y a une première vague d'intérêt profond pour ce qu'avait écrit Simone de Beauvoir. Le texte a été bien lu, d'autant plus, encore une fois, qu'il a été analysé sur les campus. Donc, il a été bien lu et elle était heureuse de cette réception. Mais il y a donc on pourrait appeler cette première vague le premier féminisme. Vous voyez, là, une adhésion aux thèses de Simone de Beauvoir. Et puis, moi, ce que j'ai vu apparaître, puisque j'ai commencé à enseigner en 1973, justement en Californie, qui était à ce moment-là plutôt un laboratoire des idées nouvelles, eh bien, j'ai vu apparaître véritablement ce qu'on appelait le deuxième féminisme. Et ce deuxième féminisme, donc celui qui apparaît dans les années 70...
Vous ne nous avez pas bien défini le premier.
Alors, le premier, c'est celui qui est en accord avec Simone de Beauvoir. C'est celui qui est très marqué par les thèses de Simone de Beauvoir.
On peut résumer ces thèses en quelques mots.
Bon, c'est surtout l'idée, si vous voulez, du fait que être femme est de l'ordre d'une construction sociale, n'est-ce pas, c'est donc quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la nature, on dit bien, on ne naît
donc
pas femme.
Donc ce n'est pas un destin, c'est une affaire de volonté existentielle.
Voilà, c'est une affaire non seulement de volonté, mais d'état aussi de la société, c'est-à-dire que la société, depuis votre plus jeune âge, en achetant petite fille des poupées, en l'habillant en rose, la petite fille, etc., bon, là, forme, la préforme à un devenir femme. D'ailleurs, on lui achète des dinettes, des poussettes, etc. Et on achètera des armes aux petits garçons et des voitures rouges et des voitures de course. Donc, vous voyez, c'était bien. Là, il y avait un accord total avec les thèses de Simone de Beauvoir. Donc, qu'est-ce qui a changé ? Je peux vous dire qu'elle en a été la manifestation. Les raisons profondes, c'est complexe et ça nous amènerait à aller tout à fait en profondeur et non, nous n'avons pas
d'abord
le temps.
D'abord, éclairons un point.
Je vais vous dire ce qu'il y a... Pardon.
Éclairons un point. On parle de l'influence de ce livre, on parle des débats autour de ce livre. Ces débats ont lieu où ? Et de
dans
façon plus générale, si on peut élargir. Le débat d'idées aux États-Unis,
il ne se fait que dans les universités. Il faut comprendre qu'à la différence de ce qui existe ou existait, parce que malheureusement le rôle de l'intellectuel en France, lorsque l'intellectuel est devenu un intellectuel médiatique, modifier les choses. Mais si vous voulez, il n'y a pas ces intellectuels qui interviennent dans les affaires politiques, par exemple, aux États-Unis. Tous ces débats d'idées ont lieu dans les campus, sur les campus.
Et non pas dans la presse, et non pas sous forme de conférences.
C'est très peu relayé par la presse, très très peu. Vous voyez, c'est en vase clos. C'est la limite d'ailleurs. Après, je vous en parlerai pour voir comment, malgré tout, ça a pu agir sur l'élection de Trump. Mais si vous voulez, ça se fait en vase clos. Un Jean-Paul Sartre n'est pas pensable aux États-Unis. Bon, vous me direz, il y a l'exemple de Chomsky. Oui, c'est vrai. Mais enfin, c'est très, très exceptionnel.
Très confiné.
Et c'était malgré tout... confiné. Quand il y avait des débats au moment de la guerre du Vietnam, quand il y avait... C'est sur les campus. Ouais. Alors, ça peut se traduire par une manifestation, il y en a eu quelques-unes, mais vous voyez surtout des étudiants. Vous voyez, ce ne sont pas des débats qui...
J'entends bien. Le deuxième féminisme, c'est le Women's Lib.
Alors, ça va commencer avec le Women's Lib.
Et quelle différence avec le premier féminisme ?
Alors,
et à quelle époque sommes-nous ?
Parce que dans les années 70,
c'est 54.
50, voilà. La parution 54, 49 en France, 54. Et je vous dis... Très bon accueil, grand intérêt, là où se passe la vie intellectuelle, là où ont lieu les débats d'idées, c'est-à-dire à l'intérieur des campus. Pas tous les campus, hein. Disons à l'époque, pour le deuxième sexe, c'est surtout évidemment sur la côte est des États-Unis, dans les universités chics de la Ivy League. D'ailleurs, elle sera invitée dans ces universités-là, et aussi dans quelques universités de la côte ouest. Je ne peux pas dire qu'il y a eu un grand mouvement dans le Middle West des États-Unis.
Bien sûr.
Alors, comment ça change ? Ça va changer, je vous dis, dans les années 70, lorsqu'il sera reproché à Simone de Beauvoir, ce que l'on appelle son féminisme égalitaire.
Venant de notre tradition d'universalisme républicain.
Exactement.
Qui a fait que Simone de Beauvoir est tout de même très française dans, je dirais, son arrière-pensée, j'allais dire son background, excusez-moi. Et donc là, on est dans un tout autre contexte.
Absolument.
Aux États-Unis, plus différentialiste.
Exactement. C'est
et,
ce qui
et moins républicain.
Exactement. C'est cela qui, tout d'un coup, a fait que ce livre a été non seulement moins lu, mais considéré un peu comme une chose un peu vieille, désuète, obsolète, et même d'ailleurs quelque chose qu'il fallait presque combattre. Ce qui devait être combattu, c'était cette espèce d'universalisme abstrait qu'on reprochait aux thèses de Simone de Beauvoir.
Et enfin, qu'on reproche à la culture française de façon générale.
Que l'on reproche à la culture française. D'ailleurs, ça nous est revenu au moment où il y a eu des débats auxquels des gens comme Sylvia Nagasinski, pour citer un nom, ont pris part sur la question de la parité, n'est-ce pas ? En France, la parité, notamment dans le monde politique, eh bien, certaines personnes, comme Elisabeth Badinter, ont dit, mais non, la parité, pourquoi ? Ce qui est demandé, ce n'est pas une parité, parce que la parité reconduit du différentialisme, c'est-à-dire
ce n'est pas
du quota.
La comptabilité entre
bien sûr, des
communautés
quotas,
différentes.
Mais bien sûr, ce sont des quotas, ça veut dire que c'est du différentialisme. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait de l'universalisme. Et une femme représente, elle ne représente pas les femmes, une femme représente la nation, le pays, etc., dans ses fonctions électives. Donc, vous voyez, ça, c'est un vieux vieux débat. Et c'est là-dessus que les thèses de Simone de Beauvoir ont d'abord été combattues. C'est-à-dire, non, non, il faut du différentialisme. Ce que nous demandons, c'est la reconnaissance de droits spécifiques et on s'est acheminé vers ce communautarisme.
C'est-à-dire que de progressiste, Simone de Beauvoir est quasiment devenue réactionnaire.
Oui, oui. Voilà.
Entre guillemets, bien sûr.
Absolument.
Et alors, je voulais vous demander, puisque vous évoquez les années 70, les années 70, c'est les années de la pénétration de la French Theory.
Oui.
Sur les campus.
Tout à fait.
Donc, présence de nos amis Derrida, et par livre interposé, Lacan, Deleuze, etc. Alors, quel rôle a eu, disons, la French Theory dans cette nouvelle
Très
idéologie
important.
J'allais dire du queer, du...
Très important.
Expliquez-nous ça.
Très important, parce que, donc vous voyez bien ce que l'on reproche à Simone de Beauvoir, comment naît le différentialisme, et alors où interviennent, et pourquoi interviennent, les grands maîtres de ce qu'on a appelé la French Theory, c'est-à-dire essentiellement Jacques Derrida, Foucault et Deleuze. Alors, pourquoi ? Parce que ce qu'ils ont trouvé chez Jacques Derrida, c'est ce que, parce que ça vient des États-Unis, ce mot, la déconstruction. C'est-à-dire qu'il s'agissait de montrer que la question de la femme et de la place de la femme n'était pas simplement une question de type sociologique, mais qu'il fallait démonter le discours. C'est-à-dire qu'il fallait démonter le discours, déconstruire le discours. Oui. Et c'est d'ailleurs cela qui a donné naissance au politiquement correct, expurger tous les termes qui manifestaient une sorte de pensée ou d'idéologie inégalitaire et machiste.
Il fallait révéler tout ce qu'il y a de culture dans la nature, ou dans ce qui se donne pour naturel. Et cette culture étant une culture mâle, blanche, dominante, il fallait en quelque sorte
Absolument.
Mettre à jour
Absolument.
Ce conditionnement particulier de l'universel
Absolument.
Pour s'attaquer, disons, d'ailleurs, aux normes établies.
D'ailleurs, il y a eu un livre qui a eu énormément de succès aux États-Unis de Judith Butler, grande théoricienne du gender, du genre, qui s'appelait « Les mots comptent ». Les mots comptent, c'est-à-dire qu'il faut opérer, et les féministes sont immédiatement occupées de cela, il faut qu'il y ait une police du discours. Hein. Il faut une police du discours parce que il faut s'attaquer à la performance linguistique. Et vous voyez bien comment Jacques Derrida a pu être utile à ce second féministe, surtout qu'il avait lancé ce terme, il voulait s'attaquer au phallo-logocentrisme.
Oui.
Alors, oui, c'était à la fois phallo, bien sûr, on voyait bien que c'était le discours qui venait des mâles blancs,
voilà.
Et le logos qui était cette raison toute puissante qui va avec le phallus, d'ailleurs.
Oui. Et donc, on peut dire que là, la culture française a une influence sur la civilisation américaine.
Complète.
C'est assez rare pour qu'on puisse le noter. C'est peut-être, au fond, la dernière incursion d'un souffle européen sur la civilisation dominante. On peut presque avoir un moment d'émotion devant ces années 70 où la France existait, en tout cas dans les campus dont vous avez parlé.
Et vous savez, j'ai mentionné Jacques Derrida, vous avez évoqué le nom de Foucault. Ça paraît tout de même assez troublant et assez bizarre d'accrocher Foucault au char de ce second féministe. Bon, on se dit c'est un peu étrange. En fait, le Foucault qui les
Pourquoi
intéresse...
Pourquoi un peu étrange ?
Non, parce qu'on n'imagine pas Foucault en défenseur du féminisme. Mais par quel biais ? Eh bien, ce qui les a intéressés chez Foucault, c'est toute la théorie du pouvoir. Hein,
oui.
Puisque c'était quelque chose, vous voyez, ce féminisme avait une face politique, il s'agissait de métamorphoser la société en intervenant sur le langage, mais à tous les niveaux. Donc Foucault était pour elle, si j'ose dire, et même pour eux, parce qu'il y avait des hommes acquis au féminisme sur les campus, quelqu'un qui était très important par toute sa théorie du pouvoir.
Oui, j'ai bien compris.
Et en même temps, attendez, il faut voir aussi, c'est le Foucault aussi qui critique l'hétéronormalité. c'est aussi celui qui défend, on dirait, c'est la raison qui fait le fou, etc. Donc, vous voyez, ce Foucault-là, dans un malentendu assez grand,
oui,
leur a été très utile. Let's go, but I'm Gerald, and I can always have just what I want. She's the baddest, I would love to flaunt. Take her shopping, you know Yves Saint Laurent. But nope, she ain't with it though. All because she got her own dough. Boss, boss, if you don't know, she could never ever be a broke hoe. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with the boy. She's the baddest, straight up vicious, texting her and asking her if she's alone and send some pictures. She said no. What? Well, goddamn. She said come over and see it for yourself. Never asking for your help. Independent woman, she ain't for the show. No. Nah. She's the one. Smoke with her until the stand up until we see the sun. The baddest ever. Swear she do it better than I ever seen it done. Never borrow, she ain't never alone. It's when she told me she ain't never, ever, ever, ever gonna be on. Somebody like me before though.
France-États-Unis, un commerce équitable. Régis Debray, Françoise Gaillard.
Alors une question, Françoise, puisque nous nous intéressons aux allers-retours, n'est-ce pas? Ce qui va de chez nous là-bas. Et là-bas rebondit chez nous. Donc, expliquez-nous comment ce néo-féminisme offensif, en quelque sorte, mais j'ai peur d'utiliser des mots politiquement incorrects.
Allez-y.
Ce néo-féminisme sécessionniste, récriminateur. Mais là, je m'arrête parce que je vais avoir beaucoup d'auditrices fâchées. Mais comment donc ce néo-féminisme, on peut dire américanisé, où cette Simone de Beauvoir, disons, transformée ou déformée, va revenir chez nous, dans nos milieux, et pas seulement dans nos campus.
Non, parce que chez nous, la pensée ne se cantonne pas au campus. D'abord parce que la notion de campus n'existe pas vraiment chez nous.
Parce qu'un campus, c'est à l'extérieur de la ville. C'est déjà symbolique.
Voilà. Il faut voir qu'un campus, c'est un petit monde en soi et qui ne s'ouvre pas tellement à l'extérieur. Donc, tandis que chez nous, ce sont des universités ouvertes sur la ville. Elles sont dans la ville.
Et au centre.
Et au centre de la ville. Alors, comment c'est revenu? C'est un effet boomerang tout à fait intéressant. Effet boomerang, d'ailleurs, que l'on a vu également, qui concerne la pensée politique, qui nous est revenue par l'écologie, relecture des textes de nos French théoriciens et qui a donné cet avènement de la pensée morale, de la philosophie morale. Alors, ça nous est revenu sous forme de boomerang, je dirais peut-être par l'imposition du politiquement correct, c'est-à-dire une transformation qui s'est opérée dans le langage, sur les mots, une vigilance. On ne peut plus parler, il faut faire attention à la manière dont on désigne.
On est tous
donc,
d'accord.
Donc, on est là-dedans. Là-dessus. Et c'est venu aussi avec quelque chose qui, chez eux, était de l'ordre, je dirais presque, d'une hystérie. Et là, je voudrais vous donner un exemple. Le sexual harassment, c'est-à-dire l'idée...
Le harcèlement sexuel.
Voilà. J'aurais voulu vous montrer à quel point, dans les années 70, si je peux me permettre une anecdote, les choses étaient arrivées presque à un niveau hystérique et ridicule. Moi, je me souviens très bien...
Un prof doit laisser sa porte ouverte.
Ah, non, mais ça, c'est... oui, ça, à partir du moment où quelque chose... une sorte de division, presque une lutte des sexes, s'est instaurée aux États-Unis, parce qu'on peut parler de lutte des sexes, hein, je pourrais vous donner de différents exemples. Oui, bien sûr, sur les campus, il est presque obligatoire, lorsque un enseignant reçoit un étudiant, de laisser la porte ouverte. Pour quelle raison ? Parce que, imaginons que l'étudiant... ne soit pas bien noté, ou qu'il n'ait pas la note qu'il attendait ou espérait, étant donné le prix qu'il paie pour être inscrit à l'université, il peut se retourner contre le professeur et l'accuser de sexual harassment, vous voyez. Et donc, les universités sont terrifiées, parce que faut pas le prendre à la rigolade. Ça va très loin. Ça met en cause la réputation de l'université, les procès sont extrêmement onéreux. En plus, comment le prouver, vous voyez. Donc, c'est quelque chose qui terrifie tout le monde. D'ailleurs, on peut dire que l'idée même de sexual harassment, non seulement dans les universités, mais dans la vie quotidienne, a créé chez les hommes une sorte de paralysie.
Oui, alors c'est amusant de voir comment la libération sexuelle de 68 se transforme 20 ans après en inhibition sexuelle généralisée. C'est un retournement.
Une inhibition totale. Ouais. Par exemple, ils ont très très peur qu'une parole, si vous dites sur un campus à une collègue, ne parlons pas des étudiantes, ça, il faut s'en abstenir absolument, mais même à une collègue, tiens, tu as une jolie robe, ou etc., on ne le dira pas. Mmh. On ne sait jamais si ça n'est pas déjà la manifestation de... Parce que ce qui est intéressant, ça c'est sur les campus. Je vous parlerai de l'hystérie, ce que c'est devenu à propos du viol, etc. Mais avant, pour le sexual harassment, là, c'est sorti des campus. Et il y a eu un phénomène qui est extrêmement intéressant et qui est l'affaire du juge Clarence, hein, Thomas Clarence, à la Cour suprême, qui a été attaqué par une de ses collaboratrices, Anita Hall, et qui a été attaquée parce qu'il aurait eu des paroles et des gestes. Attendez, il ne l'a pas violée. Hein. Bon, mais là, ça franchit les limites du campus et ça a été une affaire d'État puisque c'était un juge à la Cour suprême.
Oui, puis on a ensuite des exemples plus célèbres à l'échelon présidentiel de la Maison-Blanche.
Bien après. Mais si je peux me permettre juste une petite parenthèse pour nos auditeurs.
Permettez-vous.
J'ai toujours considéré que, puisque c'était le seul événement qui avait franchi véritablement les portes du campus et on voyait ce que ça donnait, je suis persuadée qu'au moment de l'élection de Trump et des mots qu'il a eus concernant les femmes et qui ont indigné évidemment les femmes, pas seulement les féministes, a été comme une sorte de baume sur le cœur d'un certain nombre d'Américains du Middle West, etc., qui se sentaient terrorisés par ce qui s'était passé, en disant « Ouf, ça fait éclater ce carcan, voyez. Donc ça a été une affaire qui a fait exploser simplement les phobies, les oui, hystéries alors, qui se développaient au sein des campus.
Je vais vous poser une question provocante. Ce néo-féminisme a fait retour, mais par quel vecteur, sur quel véhicule? Moi, je pense à tous ces professeurs français, professeurs re et professeurs sans eux, qui sont allés enseigner aux États-Unis, qui se sont en quelque sorte acclimatés acculturés, si j'ose dire, et qui sont revenus en France, peut-être un peu, pour dire, mais attendez, chez les gens bien, c'est pas comme ça qu'on fait. Chez les gens très, enfin, beaucoup plus avancés que nous, nous devons un peu
c'est vrai.
Nous mettre aux normes.
C'est vrai. C'est vrai, je pourrais même citer des noms, hein, ce ne sont pas du tout, ça n'avait rien, ça, bon, je ne dénonce aucun péché particulier, mais il y a des gens comme Éric Fassin qui sont aussi les porteurs de cela, cette théorie du genre s'est petit à petit diffusée. Alors comme en France, ça ne reste pas dans l'université, ça crée des débats dans les médias, même au sein du politique. Bon, donc c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'intellectuels.
Un snobisme intellectuel.
Oui, un snobisme, mais il faut dire aussi qu'on était, du point de vue de la pensée française et de son rayonnement, un peu dans le creux de la vague. Donc ça a favorisé aussi cette importation, si vous voulez.
Oui, oui. Hein?
Donc oui, bien sûr, il y a eu des relais intellectuels qui ont permis à cette pensée. Alors, pas jusqu'à, encore une fois, je vous dis, l'hystérie que l'on peut constater aux États-Unis. Moi, j'aurais envie de vous donner quelques exemples sur les campus qui font vraiment... bon, jamais nous n'aurons ça en France. Quand vous êtes sur un campus américain, vous apercevez qu'il y a une obsession jusqu'au délire du viol. Il y a partout des affichettes hein, sur le rape. Alors le rape, qui donne d'ailleurs l'impression que tous les hommes sont des prédateurs, n'est-ce pas, d'affreuses bêtes qui sont là, après vous sauter dessus, bon.
Mais j'ai envie, alors, voilà, l'Amérique est la civilisation du contrat, et non pas de la loi.
Oui.
Hein, au fond, la grande différence, l'une des très grandes différences entre nos deux civilisations, c'est que nous avons des fonctionnaires et eux, ils ont des juristes, hein, d'accord. Ils ont chez eux, je crois, un juriste pour 50 personnes, chez nous un pour 200. Enfin, voilà. Donc, tout tourne autour du contrat, parce que tout a été fondé par un contrat. En arrivant au Cap Cod, 111 dissidents font un compact. Bon, donc, voilà. Donc, c'est très logique chez eux, le contrat. Mais est-ce que cette idéologie du contrat, évidente en politique et en économie, a répercuté sur les rapports entre les sexes?
Absolument. Alors, je vais revenir juste deux secondes en arrière, parce que vous me disiez comment ceci est arrivé. Il faut voir aussi que un certain nombre de féministes, comme Hélène Cixous, etc., qui enseignaient beaucoup aux États-Unis, qui étaient très agissantes dans toute l'excitation autour du viol, etc., ont joué un très grand rôle. Alors maintenant, l'histoire du contrat. Moi, j'avais écrit il y a longtemps sur cette question... Parce que un des principes sur lesquels est fondée la société américaine, et je dis la société dans son ensemble, c'est le contrat contractuel. Nous avons des principes républicains, liberté, égalité, fraternité. Eux sont fondés sur le contrat, c'est-à-dire que le contrat structure l'ensemble des rapports.
Et c'est un contrat, c'est une négociation.
Absolument, et structure l'ensemble des rapports, qu'ils soient privés ou qu'il soit, je dirais, collectif, alors, ou qu'il soit...
Donnez-nous des exemples de négociations intersexes.
Alors, les négociations intersexes. Alors, d'abord, ce que ça empêche. Il est évident que, du coup, dans les rapports entre deux individus, et après je vous donnerai des exemples caricaturaux, dans les rapports entre deux individus, si l'homme ne regarde pas simplement la pointe de ses souliers parce qu'il a peur de faire un geste mal interprété, enfin disons qu'il s'est risqué, n'est-ce pas, et donc il va se retrouver dans cette situation d'avoir un rapport avec quelqu'un du sexe opposé ou même du même sexe maintenant, puisque tout ça... et penser de la même façon et sur les mêmes principes. Impossible de jouer à ce jeu si charmant et si raffiné et qui a fait partie de notre culture.
Et qui s'appelle la séduction.
Et qui s'appelle la séduction. Parce que la séduction, c'est justement une forme de tricherie. D'ailleurs, quand il y a ce que nous appelons, mais nous en plaisantant, une rupture de contrat entre deux personnes qui ont une relation, c'est cheat, tu as triché, hein, quelque chose de très fort. Parce qu'on sait aux États-Unis à quel point la tricherie, le cheat, qui s'oppose fondamentalement, je dirais essentiellement, au principe du contrat,
oui,
hein, parce qu'il n'y a pas de cheat dans le contrat, sinon il n'y a plus de contrat, et quelque chose de très violent. Vous voyez très bien cela dans les comédies américaines, ou dans les drames américains, ou dans les séries, dès qu'il y a tromperie,
ou mensonge,
il y a divorce, parce que split, on se sépare, puisque on a rompu le contrat.
Et on prend des avocats.
Et on prend des avocats, et le type qui est souvent responsable de la chose se retrouve tout nu, puisque les femmes sont très très bien défendues dans ces cas-là. Mais ce qu'il y a de tout à fait étonnant, parce que ça, pas de séduction, pas de profiter d'eux. Il faut voir quelle est la vie des campus. Alors, revenons sur les campus. Le samedi soir, l'étudiant boit comme un trou, il y a des espèces de parties, etc. Et tout d'un coup, il peut oublier, n'est-ce pas, ses principes fondamentaux et se retrouver dans une situation le lendemain matin, s'il se réveille à côté d'une jeune personne ou d'un jeune qui avait bu aussi, etc., il peut immédiatement être attaqué en disant « mais je ne le voulais pas, mais c'était pas ça, bon ». Donc, moi j'ai vu, vraiment, dans plusieurs universités, et notamment celle de Brown, qui est une très bonne université de la Ivy League, j'ai vu, de même que nous avons des sports de contrats prénuptiaux, n'est-ce pas, des contrats que on disait aux étudiants qu'il fallait aller chercher, n'est-ce pas, dans le centre où on s'occupait des affaires.
Vous voulez dire chercher comme un formulaire.
Chercher un formulaire, n'est-ce pas, un contrat type, avant de sortir
avec une jeune fille.
Avec une jeune fille ou un jeune homme, n'est-ce pas, un contrat avec des cases à faire que l'autre devait cocher pour dire ce qu'il acceptait ou n'acceptait pas. Donc, ça évitait que le lendemain matin, vous disiez « ah mais non », etc. Donc, on pouvait se protéger en montrant le contrat. Voilà ce qui a été accepté. Tellement ils vivent dans la terreur de la...
Ça doit pas simplifier
la vie. Écoutez, c'est ce qu'on appelle...
Pas seulement sentimental, mais quotidien.
C'est épouvantable. Alors, c'est ce qu'on appelle le day trip. C'est-à-dire que vous n'êtes pas violé par un type que vous ne connaissez pas et que, en faisant du jogging, vous avez croisé malencontreusement quelque part. Non, le day trip est quelque chose. C'est-à-dire le fait que vous étiez violé par quelqu'un avec qui vous aviez rendez-vous, que vous connaissez, exerce une telle terreur, notamment sur les jeunes mâles, qu'on revient à cette idée de l'inhibition. Ça ne favorise pas, évidemment, des contacts civilisés, policés. Bon. Vous voyez, donc, ça, c'est quelque chose de terrible. De terrible. Describe the touch. No, it's the thought. It's warm and yellow and has a ruffle. It's warm and yellow
Au-delà de cette caricature, disons, tirée de la conjoncture. Plus largement et sur la longue durée, les rapports hommes-femmes aux États-Unis et en France, comment les distingueriez-vous? Alors, vous avez parlé évidemment de l'opposition séduction contre négociation, mais.
Très différent.
Je pense que ça nous dit beaucoup sur les soubassements historiques de chacune de ces, cultures. D'abord, je pense à la conversation. Je pense au salon du 18e et même du 19e, c'est-à-dire où la femme a un rôle essentiel et où, au fond, il y a comme une sorte de jeu toujours un peu trouble et délicieusement trouble entre hommes et femmes, c'est-à-dire tout un jeu Marivaux à la Marivaux,
non, ça,
d'esquive, d'allusion.
C'est donc... C'est le mal.
C'est le mal.
C'est démoniaque.
Oui.
C'est vraiment le mal. C'est le mal.
Et, au enfin,
le
sens
mal,
du mot,
sans accent,
oui, j'entends bien, j'entends bien.
C'est le mal. C'est evil. C'est vraiment pas bien. Et d'ailleurs, vous le voyez, puis je vais revenir un peu en arrière.
C'est pas bien pourquoi? Par manque de transparence?
Ah oui, oui, c'est dans l'ambiguïté qui est le contraire du contrat.
Oui.
C'est l'ambiguïté, c'est l'ambivalence, c'est tout ce que la catholicité accepte dans une espèce de jésuitisme. Bon, bref, qu'ils n'ont pas du tout, puisqu'il faut être dans la transparence.
C'est les zones d'ombre.
Les zones d'ombre sont inacceptables.
Les délicieuses zones d'ombre.
Elles sont pas du tout acceptable. Et là, l'idée de la transparence nous vient évidemment de cette culture américaine. Mais encore aujourd'hui, je ne veux pas caricaturer, mais je l'ai expérimenté je ne sais combien de fois, dans des parties qui sont sur le campus. Vous verrez que les hommes vont aller boire des bières, au bout d'un moment, les hommes vont aller boire des bières à la cuisine. Et puis les femmes vont rester à discuter, comme il s'agit de professeurs, des thèses qu'elles dirigent, ou j'en sais rien, d'autres choses. Mais dans la vie ordinaire, c'est pareil. Elles vont rester à parler de leurs enfants, de leurs tricots, etc. Et les hommes vont boire des bières. Alors la conversation, mais au fond, il n'y en a pas aux États-Unis. La conversation est un genre totalement ignoré. D'ailleurs, on le voit quand on a, de temps en temps, on a des images de débats américains. Il faut faire des jokes, il faut faire rigoler.
C'est obligatoire, le starting joke avant la conférence.
Absolument, le starting joke. Mais ça serait considéré comme cuistre. Pas bien vu. D'ailleurs, être intelligent n'est pas une qualité. Quand on dit de quelqu'un qu'il est clever, c'est pas nécessairement bon.
Oui, de même, le traité d'intellectuel n'est pas
très
bon.
Pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon.
Vous voyez, de même, quand un sénateur est vu avec un livre entre les mains.
Ce n'est pas bon.
C'est pour son électorat, c'est fâcheux.
Non, ce n'est vraiment pas bon. L'idée de l'image de certains de nos présidents avec une bibliothèque en fond, ça serait catastrophique. D'ailleurs, Trump dit qu'il ne lit rien. Bon, c'est beaucoup mieux. Bon. Mais vous voyez, cet usage de la conversation qui fait partie du charme de la vie française est totalement ignoré, je crois, dans la tradition anglo-saxonne, pas seulement américaine. D'abord, les pionniers n'avaient pas le temps de faire la conversation. Et ensuite, ça n'est pas né.
Non, j'ai une objection à vous faire, là, François. Je pense à la tradition de la debating society anglo-saxonne.
Mais c'était
entre mal. Je pense également, excusez-moi, à l'enseignement de la rhétorique. Quand on entend Obama parler, alors c'est vrai qu'ils ne connaissent pas la conversation, mais ils connaissent la rhétorique. En tout cas, certaines couches sociales
connaissent la rhétorique.
Même plaisant d'écouter. C'est plus plaisant d'écouter Obama qu'Hollande, si vous
voulez.
C'est
évident.
Bon, parce que Obama sait introduire, parler. Ça s'apprend.
Alors,
ce que nous n'apprenons plus, nous.
Bon, alors je suis entièrement d'accord avec vous. Généralement, ce sont d'abord cet usage de la parole, si on revient à l'Angleterre, était réservé au club.
Oui,
bon,
c'est vrai.
Ces messieurs étaient entre eux.
C'est juste.
Bon, ces messieurs étaient entre eux, mais on n'intégrait pas les femmes.
C'est
bon,
juste.
Maintenant, il y a une égalité des sexes en ce domaine, et c'est vrai qu'il y a même des concours. Dans votre dernier livre, vous prenez ce terme qui nous est arrivé de battle, c'est-à-dire qu'il y a des battles entre différentes universités qui sont des compétitions de rhétorique. Et ils sont formés à cela. D'ailleurs, c'est pour ça que leurs prédicateurs sont parfois assez impressionnants.
Remarquable. Tradition protestante.
Tradition protestante.
Chacun peut s'improviser prédicateur.
Absolument. Donc ça, ça existe. Mais ce n'est pas une conversation. Parce que il s'agit, si vous voulez, comme les faisaient les anciens, comme Cicéron pouvait l'avoir appris, etc. D'ailleurs, ils seraient capables, comme les sophistes d'ailleurs, de défendre une cause et immédiatement on leur propose de défendre la cause adverse,
tradition,
c'est-à-dire
de
des
l'avocat,
jeux,
oui.
à, de l'avocat, oui, oui. Et je vous dis des jeux qui remontent à l'Antiquité. Bon, ça, oui, mais quelque chose de la conversation de salon, de l'échange policé, du brillant entre les sexes, du jeu de mots, de mais autrement que la grosse plaisanterie qui doit immédiatement ouvrir votre speech.
Ou de l'entente à demi-mot,
voilà.
Ou de l'allusion, disons. L'esprit de finesse, disait
Pascal. Oui, le côté Voltaire est totalement ignoré.
Ouais.
Hein, ce côté, c'est très apprécié en France d'avoir de la propos,
De la sprezzatura,
l'esprit de finesse. Bon, non. Alors, les jeux rhétoriques, oui, ils sont assez bien formés et il y a de plus en plus. D'ailleurs, j'ai appris qu'en France, on commence à les introduire dans nos cursus, ces jeux rhétoriques. Bon. Ça nous vient aussi des États-Unis, oui. Et d'une tradition anglo-saxonne. Mais ce que nous lisons dans les livres du 18e, du 19e, non, ça n'existe pas. Alors peut-être que ça existait, mais même pas. Parce que j'allais dire, est-ce que dans le vieux Sud, ça n'existait pas non plus? Non.
Oui,
je n'en vois pas la trace dans les écrits du vieux Sud.
Disons peut-être que la relation au langage chez nos amis américains, c'est comme ça qu'il faut dire,
oui.
N'est-ce pas, est pragmatique, c'est-à-dire recherche d'efficacité. Donc leur don merveilleux pour la publicité, pour le slogan, pour le jingle, pour le résumé, enfin, toute chose, disons, pour le pitch. Il faut que ça marche, quoi.
Absolument.
Alors que nous... Bon, on veut pas tellement arriver aux conclusions trop vite, et puis on trouve du gris-perle.
Et puis on sait jouer avec les mots.
On sait jouer avec les mots, on prend son temps. Quand time is money, il faut aller droit au but et donc trouver le mot qui frappe.
Et fait mouche. Mais vous voyez, et je vais vous donner un exemple qui va vous faire sourire, je pense. Louis Marin était un très bon ami. Et bien qu'ayant enseigné aux États-Unis,
dire qui est Louis.
Louis Marin, grand spécialiste de l'art et professeur d'esthétique, etc. Bon, il enseignait beaucoup aux États-Unis, donc il parlait parfaitement l'anglais. Mais quand il avait à faire une conférence importante, il la faisait traduire. Et un jour, il me dit cette chose. Il me dit, tu sais, c'est quand même très étrange. Comme on sait qu'aux États-Unis, on ne doit pas déborder, une conférence est 50-55 minutes, point. Donc, c'est quand même très étrange, je prépare ma conférence, elle fait 55 minutes, je la fais traduire, il ne m'en reste que 40. Ben oui, parce que tout ce qui était brillance,
tout ce qui était,
avait totalement disparu.
Tout ce qui était inutile.
C'était peut-être inutile.
Non, mais tout ce qui était inutile...
Et charmant.
Voilà.
Et qui faisait le charme, n'est-ce pas, de ce qu'il montrait, etc. Ben, ça avait disparu. Et il me disait, mais écoute, c'est épouvantable. Et c'est vrai, c'était peau de chagrin. Mais regardez, ça ne tient pas simplement à la syntaxe, hein, entre face et seatbelt, puisque c'est une langue agglomérante. Nous, attachez vos ceintures de sécurité. Non, ça tient au fait qu'on enlève. On enlève.
Le charme est une notion qui vient de Carmen, la poésie, Carmen Carmina. Et le charme n'est pas américain.
Non, c'est même très mauvais, c'est maléfique.
C'est maléfique, c'est pervers. Resterait à faire une comparaison entre le charme et le glamour.
Le glamour est américain.
Le glamour est américain. Vous les distingueriez comment?
Le glamour a un côté quand même un peu tape à l'œil.
Oui.
Le charme est plus ambigu.
Insinuant.
Insinuant, difficile. Le glamour, on voit, c'est la star.
Le glamour repousse un peu.
Oui, oui, elle est réfrigérante d'une certaine
charme
manière.
Le charme attire.
Parce que le charme, dans son ambiguïté, les méandres dans lesquels il va vous entraîner, est évidemment beaucoup plus séduisant.
Mais alors,
c'est la star dont parlait Edgar Morin, le sociologue.
Voilà. Mais pour en revenir à notre affaire, si j'ose dire, à nos love affaires, peut-on dire que l'Amérique est finalement plus ou moins féministe que la France?
Je ne sais pas.
À quel sens donner du mot féminine, peut-être, et peut-être revenir à Simone de Beauvoir. Est-ce qu'on a une idée de la façon dont Simone de Beauvoir a pris cette sorte de ce deuxième féminisme, elle qui était dans la première génération?
Elle l'a connu, mais elle était déjà un peu âgée au moment où elle en a pris connaissance, donc ça n'a pas réellement influé, sauf lorsque elle s'est occupée de défendre encore les droits des femmes, et notamment c'est en 1974 qu'elle va fonder la Ligue du droit des femmes. Mais c'était un petit peu trop tard. Elle était un peu ailleurs. Alors maintenant, à propos du féminisme, c'est évident que cette contractualisation et cette juridisation,
qui va avec toute la vie politique et sociale aujourd'hui en France.
Et qui va avec, à mon avis, ne fait pas droit à un respect des femmes. Nous vivons dans une culture qui les a toujours intégrées. On sait qu'elle en fait le charme, elle en fait... Bon, on les a intégrées. Et il y a une espèce de respect...
Depuis le Moyen-Âge.
Depuis le Moyen-Âge, qui...
Oui, mais qui peut mettre sur un piédestal pour, en quelque sorte, assujettir ou négliger, finalement.
Oui, mais ils n'ont pas... pensez à une chose, ils n'ont pas la Vierge Marie. Hein. C'est Jesus.
C'est juste.
La Vierge Marie, Et c'est une chose qui est arrivée avec le Moyen-Âge, la Vierge Marie. Oui. Au moment où les sociétés se sont polissées, la Vierge Marie est arrivée. Et donc un regard différent porté sur la femme.
Et la culture est au féminin chez nous.
Et la culture est au féminin.
Bien sûr. Est-ce que ce néo-féminisme, au fond, qui est une forme d'américanisation, on peut le dire, est-ce que, si j'ose dire, ça sert la cause des femmes? Enfin, je fais allusion à l'association, au journal de notre amie Gisèle Halimi.
Oui.
Est-ce que c'est bien assimilé par nous, ce néo-féminisme différentialiste, suspicieux?
Je ne le pense pas.
Non.
Je ne le pense pas parce que...
Il y a tout de même des quotas aujourd'hui.
Non, il y a des quotas. Bon, il y a des quotas de manière rigide et un peu... D'ailleurs, c'est étonnant cette histoire de quotas parce qu'aux États-Unis, cette idée de quotas qui est née concerne essentiellement, je dirais encore une fois, les campus. Parce que dans la vie politique, vous ne voyez pas du tout apparaître l'idée de quota. D'ailleurs, au Congrès, il n'y a pas de quota. On ne vient pas vous dire, il y a je ne sais combien de congressmen, etc. Et puis, il y a combien de congresswomen. Bon, on ne dit pas qu'il faut un équilibre entre les sexes. Là, encore une fois, c'est une affaire qui est liée à leur débat féministe intramuros, d'une certaine manière. Je ne veux pas caricaturer, mais on ne le voit pas.
Oui. Donc, comme toujours, nous sommes américanisés, non pas pour le meilleur, mais souvent pour le moins bon. C'est-à-dire que nous sommes, comme beaucoup, de dominer, et j'allais dire de coloniser, le mot est peut-être un peu fort, car la colonisation est si douce et si agréable. Mais là, au fond, nous ne prenons pas le meilleur de la métropole. Nous caricaturons, nous forçons le trait, et nous avons judiciarisé les rapports entre les sexes. Pas encore contractualisés. On peut donner... On peut inviter à dîner une jeune dame sans avoir à signer un formulaire à fond.
Nous n'en sommes pas encore là. Mais il faut ajouter quelque chose qui me réconforte. L'élection de Trump et les menaces qu'il fait planer sur certains droits, cette fois-ci je parle de droits des femmes, au sens où l'entendait Simone de Beauvoir, eh bien, redonne une actualité au deuxième sexe. Parce que lorsqu'elle pense qu'on pourrait retirer le droit à l'avortement, lorsqu'elle pense... Vous voyez, ces choses-là, hein, qui leur montrent que rien n'est jamais acquis, car le second féminisme s'est développé sur fond d'un acquis de ce premier féminisme dont parlait Simone de Beauvoir. Mais dès qu'on commence à penser qu'il n'est peut-être pas si acquis que cela, ça permet de voir les choses autrement et de ne pas se demander s'il faut lire entre les mots, déconstruire le discours, etc., en se disant, mais là, il y a du solide, il y a... Bon, et donc Simone de Beauvoir est en train de... Vous voyez,
De renaître. Bon, écoutez, voilà une belle conclusion. Disons que... on n'en a jamais fini avec le passé et voir ressurgir un livre de 1949, presque 60 ans ou 70 ans plus tard, et rassurant au fond les cultures peuvent survivre à une civilisation dominante.
Je le pense.
C'était France-États-Unis, un commerce équitable, par Régis Debray. Aujourd'hui, Françoise Gaillard. Prise de son, Alain Joubert. Réalisation, Marie-Laure Ciboulet.